Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes ladies, mes beaux seigneurs, aujourd'hui je reçois dans le podcast la légende Pascal Légitimus pour un épisode sur le thème du jeu de mots, sa passion, qu'il explore dans son livre L'Alphabétisier. On a évidemment parlé aussi des inconnus, la Genèse, le théâtre de Bouvard. Pascal raconte qu'il a dû être stratégique et aller vers l'humour pour exister en tant qu'acteur à cause du racisme à l'époque et l'absence de rôle sérieux, de rôle tout court pour les Noirs. Comme c'est un épisode d'une heure, je vous fais une intro un peu plus longue en vous donnant de mes nouvelles, ce qui est moins possible quand on a 1h30 d'enregistrement. Tout va bien, l'année commence sur les chapeaux de roue, avec la part de petites galères habituelles. On m'a offert un vélo électrique dont il fallait juste a priori changer la batterie. J'ai racheté une batterie, 400 boules quand même, puis les lumières étaient abîmées, il fallait remonter la selle et mettre un panier. Je suis allée chez un réparateur de vélo, qui m'a fait payer 115 balles en me persuadant, certainement à juste titre, qu'il fallait aussi changer les joints. Et il m'a demandé, un peu ahuri, pourquoi j'avais pas plutôt fait reconditionner l'ancienne batterie électrique du vélo. Eh bien, j'étais pas au courant, je me suis trouvée un peu conne, j'ai juste répondu « je ne sais pas ». Pour le plaisir de payer 400 balles, connard. Il m'a prévenu que le moteur était ancien, tapé sur la roue avant et que je devrais toujours rouler au max. Bon, j'ai pas du tout pu rouler tout court, car l'ancien chargeur n'est pas compatible avec la nouvelle batterie. Et les chargeurs compatibles sont en rupture de stock, donc je dois attendre 2 semaines avant de pouvoir en recommander un. Ça coûte 70 balles, un chargeur neuf. Et je me dis que j'aurais dû acheter un vélo neuf tout court. En fait, faut pas accepter les cadeaux des gens, hein, pardon, mais les trucs qui sont bien, bah, les gens les gardent et quand ils sont défoncés, au lieu de les jeter, ils s'achètent une conscience écolo en te les refourguant et en appelant ça un cadeau. Un humoriste dont je faisais la première partie, pareil, m'avait fait cadeau de sa caméra spéciale vlog. Je te la prête, je suis sympa, manque juste la carte mémoire. Ouais, bah c'est surtout que ton modèle est hyper vieux et maintenant je veux lui rendre et il me dit non mais t'inquiète, c'est pas pressé, je suis là mais je suis pas à la décharge en fait. Bref, voilà mon mood dans cette période de Yom Kippour, de grand pardon, où j'ai décidé de surtout ne rien pardonner à personne. Mais bon, ce sont des petits tracas du quotidien, je suis très heureuse en ce moment. Que le spectacle reprenne à la nouvelle scène, que le public soit au rendez-vous. D'ailleurs, je serai à Bruxelles ce jeudi 6 octobre. Je fais un plateau au Kings of Comedy Club, vous êtes les bienvenus. Et maintenant, l'épisode. Comme dirait Pascal, avis à la copulation, bonne écoute.
J'ai commencé à enregistrer, si ça te va. Est-ce que tu peux mettre ton téléphone en mode avion?
C'est fait.
Ah bon,
je vérifie, mais... On peut boire, c'est nature, on fait du bruit,
Bah oui, tu peux boire, absolument, ça c'est cool. Et c'est juste faire attention à ne pas se tenir trop loin quand même des micros. Ah oui, si tu veux, j'ai du spray.
Ou si j'ai ce qu'il faut.
C'est vrai.
Écoute, on a vécu comme ça pendant des siècles. À un moment donné, faut...
Ouais, alors avant d'arriver à notre passion commune pour les antibiotiques, je vais te lire le petit poème que je t'ai écrit.
C'est gentil. Okay.
Pascal Légitimus. Aujourd'hui, dans mon podcast, un invité culte. Pascal Légitimus, dont les sketchs avec les inconnus ont bercé mon enfance et mon adolescence. À 14 ans, j'étais amoureuse d'un certain Emmanuel, fils d'amis de mes parents, avec lesquels on partait en vacances. La petite sœur d'Emmanuel jouait avec ma petite sœur et moi je passais du temps avec Emmanuel à regarder les sketchs des inconnus. Emmanuel chantait à tue-tête « Hôtel Neuilly-Passy » et explosait de rire « J'ai envie de crier zut, flûte, crotte, fait chier ». Des années après, Quand j'étais dans la troupe d'impro des Soirées Plaisantes, notre metteur en scène nous montrait en référence la vidéo Soirée du Nouvel An des Inconnus comme objectif ultime d'humour, d'ambiance humoristique pour une impro à plusieurs que nous préparions. Si on m'avait dit un jour que je recevrais l'un des inconnus dans mon podcast Pascal Légitimus, les inconnus ont vraiment joué un rôle fondamental dans mon enfance car mes parents ne me laissaient pas regarder la télé et on allait très rarement voir des comédies. Ils m'amenaient voir des films étrangers d'arrêt d'essai très chiants et je ne connaissais pas du tout les humoristes français, mais on était allés voir Les Trois Frères. J'avais 6 ans et répétais pendant des jours après, hystérique, avec ou sans patate, sans patate ! Si heureuse d'appréhender ce qu'était la comédie. Mais Pascal Légitimus ne se résume pas aux inconnus et récemment, il a sorti un livre très drôle chez Michel Lafond, L'Alphabétisier. Pascal, serais-tu d'accord pour qu'on en révèle ici quelques extraits ? Et surtout, merci de venir aujourd'hui dans mon podcast.
Merci de m'accueillir.
Ça va, ça te fait pas trop chier qu'on te parle des inconnus ?
Non, j'hésite. Non, ouais. Tout va bien, ça va. Non, tout va bien. Il y a aucune. J'ai l'habitude. Bah, puis, ça fait partie de ma vie en même temps, donc.
Oui, c'est-à-dire que ça aurait été un peu absurde de faire ce poème sans ramener ça à mon premier amour de.
Aucun problème.
Mais alors, par contre, ce livre, quand est-ce que tu l'as écrit ?
Là, ça tourne déjà, là.
Ouais.
Ah, on est déjà, ah oui, ok.
Ah bah oui,
c'est
oui,
formidable.
Oui.
Enfin, non, mais formidable, c'est bien. Alors, bah, ce livre, je l'ai écrit en 2019. Oui. Ça a pris un an d'écriture avec mon co-auteur Gilbert Join, qui est un monsieur qui est très connu dans notre métier, parce qu'il est journaliste de profession.
Il répare aussi des douches. Ça, c'est pour toi, parce que j'ai cru comprendre que c'était ton style.
Et donc, du coup, ce monsieur est très féru de jeux de mots à chaque fois qu'il écrit un article sur Johnny Hallyday, sur Hanouna, sur, je sais pas, Claude François, Robert Lamoureux ou d'autres. À chaque fois, il a toujours la petite vision graphique pour, voilà, pour gratifier ou pour éteindre ou pour annuler ou pour piquer les gens. Et puis un jour, on déjeune ensemble, et puis moi je déconne, évidemment, j'ai l'habitude de. Voilà, c'est mon quotidien de déconner, de sourire, de donner de la joie. Et puis dans la conversation, il se rend compte que moi aussi j'adore les mots. Et il me dit, tiens, j'ai une idée, ça serait bien qu'on le fasse ensemble. Je dis, bah, c'est gentil, c'est flatteur. Et il me dit cette phrase, voilà, j'ai un mot qui est donc dépauvante. Le principe, c'est qu'on rajoute une lettre ou on enlève une lettre. Je dis, ok, et là tu fais quoi ? Je rajoute un R, ça fait dépauvante. Ok, et alors, nouvelle définition, femme porteuse. J'ai fait, waouh, ok, et on est parti là-dessus.
Vous avez dû vous marrer.
Bah oui, parce qu'en fait, on s'est vu, alors il y a eu le Covid qui est tombé là-dessus, évidemment.
Vous avez pu travailler pendant le Covid ?
Mais on a travaillé, alors, on a travaillé avant le Covid, le bouquin est sorti, et pendant le Covid, on a travaillé le deuxième.
Ah !
Mais avant le Covid, donc en 2019, on se voyait quasiment une fois par semaine. Ensuite, c'était presque en télétravail à distance,
ouais.
Évidemment par Internet. Et donc, on a bossé un an régulièrement. Donc, on a refait tout l'alphabet, tout simplement. Donc, ça a beaucoup de travail.
Ouais.
Ensuite, je me suis dit, bon, c'est un peu réducteur, restrictif de faire ça, de changer, de donner des nouvelles définitions, de faire des néologismes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Et je lui ai dit, si on inventait des rubriques, donc on inventait des fausses épitaphes, des fausses maximes, ainsi de suite.
Ah ouais. Voilà. Et alors justement, il y a une épitaphe qui m'a fait pleurer de rire.
Toi, tu pleures quand tu ris ?
Ouais, je pleure quand je ris, ouais.
Moi, je suis pareil. Moi, j'ai des larmes qui coulent quand je ris, ou quand je souris même.
Ouais.
Ouais.
Et ben moi, c'est l'épitaphe de Bernard-Henri Lévy.
Ouais.
Comment trouvez-vous ma pierre d'Oumbal ?
Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est logique en même temps quand on réfléchit. J'aime bien aussi celle de Jean-Marie Le Pen. Et dire que toute ma vie, j'ai combattu les morts.
Ouais.
Voilà. Donc, la langue française bouge depuis des siècles. Le latin, les ostrogoths, les visigoths qui sont passés par là, les espagnols, les arabes. Donc, à un moment donné, elle continue de bouger parce qu'avec la banlieue, ça donnait le verlan et ainsi de suite, le louchébem. Donc, nous, les artistes, c'est notre quotidien de trifouiller. Et en même temps, il faut qu'il y ait du sens. Et c'était important pour moi qu'il y ait du sens dans ce bouquin, pas que du rire. C'est pour ça que quand je fais des dédicaces, je dis, quand vous lisez mon bouquin, et d'ailleurs, vous ne lisez pas qu'aux toilettes, soit on sourit, soit on rit, soit on réfléchit.
Et aussi, vous avez décidé de séquence karaoké.
Ouais.
Je crois que mon karaoké préféré, c'est celui de Françoise Hardy. Au lieu de « Comment te dire adieu », vous avez fait « Comment te cuire deux œufs ».
C'est ça.
C'est magnifique. Ça, l'idée vient à quel moment
Bah, c'est plus Gilbert Jouin qui est féru de ça. Moi, j'ai trouvé celle de Allô Maman Bio Bio. Comment tu m'as fait, je suis pas bio. Parce qu'en même temps, il y a du sens. C'est l'actualité, bon, bah, le climat, l'écologie. Donc, voilà. Bon, écoute, de toute façon, on s'est bien marré, mais c'est le but. Hein. D'abord, quand on crée quelque chose, bah, tu le sais, si on ne s'amuse pas en faisant quelque chose, je ne vois pas l'intérêt de travailler.
Et tu penses qu'ensuite, tu as entendu des gens le chanter. Ça fait « Sur le place excellent, les œufs, c'est ça ? Un poil en pyrex, il n'y a pas mieux. Il faut que je t'explique un peu mieux comment te cuire deux œufs. »
En plus, ça, au niveau des labiales, ça...
Ah oui, non, mais ça match.
Le lipping, ça match. Mais c'est fait exprès.
« Avec de silex, tu mets le feu. Mais faut du réflexe, sinon mon vieux, sur le feu surex. » Poser tes œufs seront durs en moins de deux. Incroyable.
Ça sonne, ça match. Non, mais c'est ça. Mais on se creuse la tête hein, quand même. Ouais. C'est du travail. Tu sais très bien, avant de faire rire, il faut être sérieux.
Ouais. Et alors, j'en ai juste quand même sélectionné quelques-uns des définitions qui vraiment m'ont tordu de rire. Abdominable, individu dont les tablettes de chocolat ont complètement fondu.
Moi, j'aime bien célibataire.
Ah! Célibataire.
C'est un peu à la mode en ce moment avec les pervers narcissiques.
Ouais.
Le célibataire, j'aime beaucoup.
Célibataire, pervers narcissique, non marié. Ah, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est que c'est dans l'air du temps quand même. Vous avez pris des petits sujets un peu... Ah, j'adore. Mais, ou alors des trucs très jacobins. S'emploie lorsqu'on occupe une position très centralisée dans la baignoire. C'est tout bête, mais ça me fait rire.
Oui, c'est logique. Moi, j'aime aussi le mot crottoir.
Crottoir ?
Ouais, c'est un trottoir pour chiens.
Ah oui, très juste.
En fait, bon, le principe au départ, il m'avait dit, Gilbert, ce qui est sympa, c'est de se dire, si on est dans une situation et qu'on n'a pas le mot et qu'il n'existe pas, il l'est dans le bouquin. Donc il y a forcément des situations improbables.
Ah oui, du bon sens quoi.
C'est du bon sens.
C'est du bon sens. Voilà, et il y a une partie un peu plus perso, c'est celle où tu dis, j'aime pas.
Oui, alors c'est pour ça que j'ai rajouté des rubriques pour alimenter des points de vue. Parce que moi, j'aime bien faire rire, mais il faut qu'il y ait du point de vue. S'il n'y a pas un point de vue, ça ne m'intéresse pas. Donc, effectivement, je donne mon point de vue sur certains sujets. Il y a la lettre à M. Raymond Santo, et puis il y a les « j'aime pas ». Voilà.
Tu dis que tu n'aimes pas les premiers de la classe dans le TGV.
Oui, tous ces mecs qui sont en costard-cravate, qui sont comme en costume, des uniformes, qui font... Ils ont l'air sérieux, puis en fait, qui brassent du vent. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'ils bouffent, ces gens-là, évidemment. On ne va pas les blâmer. À un moment donné, ils ont un travail. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un uniforme.
Ouais.
Parce que moi, j'ai appris il y a quelques années que si tu es major à Polytechnique, eh ben, que tu n'as pas de cravate, tu ne rentres pas à la Banque Rothschild.
Ah ouais ?
Donc, tu vois, jusqu'où ça va, quoi, le principe d'être aux ordres d'eux. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, puis moi, ça me fait mal. Enfin, tous ces gens-là me font rire parce que pour nous, c'est un terreau formidable. Mmh. Tous les gens qui sont dans des cases et qui ne peuvent pas en sortir.
Ouais. Oui, puis tu te dis toujours... Le réseau Wi-Fi SNCF Inouï ne fonctionne pas. Comment ils font pour travailler ? Il ne marche pas ce réseau.
Ils ragent et tu les entends rager ou prendre leur téléphone pour faire un partage de connexion.
Ah voilà, c'est ça, ils font un partage de connexion.
Du coup, tu as tous les téléphones de tout le monde ?
Ah bah oui, oui, oui.
Monsieur Dubois, monsieur Francis, monsieur Dader, monsieur Kader, tu as tout le monde dans le TGV. Donc, c'est ça qui est super. Le mec qui bosse en renseignement généraux, il va dans le TGV, il récupère tous les numéros de tout le monde. C'est simple, en fait, la vie.
Ouais. Tu dis que t'aimes pas non plus les sportifs après l'effort. Non, les interviews de sportifs après l'effort.
Je déteste.
Parce qu'épuisés, ils énoncent des absurdités du genre « on fait le maximum possible, on a fait fort parce qu'il fallait le faire, on a fait moins fort parce qu'on n'avait pas le choix, on était soudés ensemble avec un jeu individuel.
» Tellement crédible, en plus. Puis tous ces sportifs qui sont épuisés, on vient les faire chier avec des questions.
Ouais.
Bah, on a fait ça, on a un sketch qui s'appelle la fin du Tour de France, où je suis sur une moto à l'arrière et j'interviewe Bernard qui est en train de faire une étape. Il est épuisé, je dis « raconte-moi ta vie, raconte-moi ton enfance ». Bon, à un moment donné, c'est... Parce que les gens pensent qu'à eux-mêmes, à un moment donné, toujours pareil, il faut que ça tombe à la fin du mois, donc il n'y a pas beaucoup d'empathie quand on a faim. Et évidemment, il y a beaucoup de métiers comme ça où tu prends mais tu donnes rien.
Ouais, c'est clair. Allez, un dernier, et après je dirai aux gens de le lire. Apartheid, régime de ségrégation qui a perdu beaucoup de sa virulence. Incroyable. Ouais, c'est aussi assez politiquement incorrect, quoi. Faut l'oser.
Ah bah, c'est un peu l'ADN des inconnus. Si on était politiquement correct, je vois pas l'intérêt d'exister. À un moment donné, on appuie là où ça fait mal.
Ouais.
Quand il y a un bouton avec du pus, on appuie dessus pour que le pus sorte.
Ouais.
Je pense que nous, les artistes, en général, que ce soit les peintres, les humoristes, les comédiens, enfin, tous les créateurs, on appuie là où ça fait mal. C'est l'effet miroir.
Ouais.
C'est pour ça que les hommes d'église au Moyen-Âge nous excommuniaient, parce qu'en fait, on représentait ce que vivait le peuple. Donc le peuple prenait conscience. Et là, il y a une prise de conscience, il y a forcément un rébellion à un moment donné.
Oui, mais à l'époque, il y avait moins. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, les backlashes, les trucs. Est-ce que vous aviez parfois des mauvais retours?
À l'époque, au Moyen-Âge, il y avait les troubadours. Ben oui, les ménestrels. C'est eux qui allaient de château en château pour raconter la vie des maîtres de séance. Nous, effectivement, à Antenne 2, parce qu'à l'époque, c'était Antenne 2, on recevait beaucoup de lettres.
Ah oui, des lettres, ok.
Ouais, beaucoup de lettres. Et on ne les lisait pas.
Okay.
Par contre, moi j'en ai lu une quand j'étais au théâtre de Bouvard, que j'ai encore chez moi, pour te dire un peu la tendance de l'époque. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé, quoique. La lettre disait, donc j'avais quoi à l'époque, 21 ans, c'est quoi ce nègre et ce bico, en parlant de Smaïn et de moi.
Wow.
C'est qui ces nègres et ces bico qui salissent notre télévision à 8h moins quart. Quand tu reçois ça, tu dis, bon, je continue ou j'arrête? Et moi j'ai dit, non, je continue, parce que... Comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être? Je ne choisis pas d'être arabe, aveugle, si c'est de naissance, sourd, muet, italien, juif, tu vois, etc. Ou femme, on ne choisit pas. Donc, comment peut-on reprocher ce que tu n'as pas choisi d'être? Donc les gens qui te le reprochent, c'est qu'il y a un truc, ils ont manqué quelque chose dans la réflexion. Donc je pense que c'est un manque d'intelligence, évidemment, de ceux qu'on appelle des racistes. Moi je suis raciste, je hais les racistes. Donc là il y a une logique, mais de pas aimer quelqu'un pour son apparence, je crois qu'il y a une éducation qui n'a pas été faite.
Et ça, le théâtre Bouvard avec Smaïn, c'était avant Les Inconnus, c'est ça?
Oui, c'était de 1980. Nous, on l'a fait de 1982 à 1984.
Et donc, c'était une émission?
Alors, Philippe Bouvard avait un talk show tous les soirs, dans un talk show avec une personnalité. Et à la fin, il invitait, comme ça arrive de temps en temps aujourd'hui, des humoristes ou des gens qui avaient un spectacle, donc pour faire la promo. Et il se rendait compte qu'à la fin de ce talk show, l'audimat était plus élevé et plus fort. Donc intelligemment, il s'est dit, je vais intervertir, je vais mettre plus de rire et moins de talk show. Donc du coup, il invitait toujours une vedette, mais qui était donc autour d'une table, et il avait un petit panier avec des sujets, et il prenait un sujet, soit l'invité ou lui-même, il énonçait le sujet, et nous, on était quoi, une petite quinzaine là, autour de lui, au studio Gabriel, où là, il y a le fameux fauteuil rouge de M. Drucker. Et on levait la main, on improvisait. Sauf qu'au bout de 3-4 mois, on s'est rendu compte que l'improvisation, ce n'était pas gêne, il n'y a pas beaucoup de qualité. Donc, on s'est mis à lire une liste de sujets qu'il avait émis dans les couloirs du studio. Et puis, on bossait, et puis on passait une audition toutes les semaines.
Vous prépariez des blagues?
Des sketchs.
Ah ouais, ouais,
des sketchs. Sur des situations, par exemple, une prostituée rencontre un flic, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était le genre de truc un peu bateau. Ouais. Après, on a complexifié tout ça. Et puis, pendant 2 ans, moi, j'ai écrit 110 sketchs à peu près chez Bouvard. C'est un peu là qu'on a pris notre métier avec tous les camarades. Donc, il y avait donc Smaïn, Didier Bourdon, Campan, Las Palèche, Chevalier, Mimi Mati, Michel Bernier, Bruno Chapelle, enfin un paquet de gugus, quoi.
Un sacré entraînement. Et quand tu dis audition, ça veut dire que si le sketch fonctionnait, vous restiez?
On passait pas à la télévision.
Ah, si jamais c'était pas marrant.
Toutes les semaines, on passait, je crois que c'était le jeudi après-midi ou le mercredi après-midi, on passait donc une audition devant Bouvard. Il disait oui ou non. Voilà. Et ensuite, quand il disait oui, on enregistrait le lendemain.
Ah, waouh.
Voilà.
Ah ouais, sacrée méthode. Là t'apprends tout, t'apprends beaucoup.
Oui, puis t'as l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que t'as la sentence, puis tu râles un peu parce que tu dis ouais, il m'a pas pris. En fait, on était payé au sketch.
Ah ouais.
Donc, pour nous, c'était important. Pour payer nos loyers, de travailler ardemment et puis d'exister, quoi.
Et comment, donc, de toute cette bande où vous étiez nombreux, finalement, c'est que trois se sont réunis?
Alors, moi, je connaissais Didier avant le théâtre de Bouvard, parce que j'ai vu Didier au conservatoire, à sa sortie de conservatoire, quand il a présenté sa scène. J'ai dit, ah, il est bon, lui. Et Campan a joué avec Bernard. Ensuite, moi, j'ai joué au Café Théâtre quelques mois plus tard, le hasard de la vie, quoique... Des fois, il y a des synchronicités. Dans une pièce qui s'intitulait « Phèdre à repasser » de Pierre Dac, au Tintamarre, rue des Lombards, qui était l'ancien Splendide.
Et donc, vous vous connaissiez?
Avant.
Avant, vous aviez déjà une affinité, vous étiez déjà copains, quoi?
Ouais, on s'appréciait.
Ouais.
Voilà. ça allait pas plus loin, on s'appréciait, et puis on se dit, voilà, on aimait jouer ensemble, ouais. Déjà, tu vois, la jouissance du partage du jeu.
Ah oui, c'est professionnel.
Ouais,
c'est,
tout à fait.
Ouais, c'est professionnel. Oui, parce que quand tu vois le documentaire d'Aurel San, t'as l'impression que c'est d'amis, ils se sont mis à travailler ensemble, mais vous, c'était plus une émulation artistique de l'admiration commune avant, que,
ouais. Avant d'être potes. Ouais, donc ouais. L'amitié est venue après, parce que t'es pas forcé de rester avec des copains que t'aimes pas. Mmh. Donc il y a une espèce de... d'entonnoir. Au début, on était 5 parce qu'on est partis ensemble à 5. Sbaïn, Seymour Bruxelles, le quatrième inconnu, comme on dit. Et nous trois. Parce qu'au bout de 2 ans, c'était dit, bon, bah, ça s'appelle le théâtre de Bouvard, mais personne ne nous connaît. Il y a pas de... Toi, t'as envie d'exister.
Eh ouais.
Un peu comme à 18 ans, tu pars de chez toi, tu dis, bon, hey, papa, allez, je vais aller casser ma croûte. Je vais fonder ma famille. Donc là, c'était un peu le cas. On est partis. En plus, on était bien payés. Donc on a pris un risque. On s'est dit, d'où les galas-galères qu'on a vécu pendant 2 ans. Et ensuite, alors je ne pourrais pas en dire plus parce qu'il y a un documentaire qui va se faire sur TF1, qui va passer à la rentrée, qui va raconter un peu tout ça, dans le détail. Donc pour ça, je ne veux pas trop m'étaler.
Ici, c'est un petit pitch, mais c'est bien, j'ai l'exclusivité
voilà,
avant.
C'est un petit bonus, un légitime bonus.
Un teaser.
C'est ça, je tease.
Ah bah ouais, forcément, ça intéresse tout le monde parce que... mais même, il n'y a toujours pas eu finalement de documentaire...
Il y a eu un documentaire fait, mais sans nous.
Ah oui.
Avec des interviews et puis des images d'archives. Là, c'est la première fois que nous serons tous les trois réunis, coagulés, pour raconter la genèse.
Parce que même ce titre, Les Inconnus, il faut le trouver, en fait.
Bah, c'était un brainstorming avec notre producteur. On s'est dit, bon, comment on va s'appeler ? Alors, moi, j'avais trouvé les Made in France.
Ah ouais, c'est pas mal aussi.
Parce que bon, vu la forte pigmentation dont j'étais affublé, j'ai dit, tiens, c'était SOS Racisme. À l'époque, c'était assez... Voilà. Et Bourdon faisait un peu plus l'aspect bourgeois.
Ouais.
Et Bernard, français moyen, Tourangeau. Ouais. Donc, à nous trois... voilà, il y avait une espèce de, on pouvait dire, une parcelle représentative de la France. Et puis est venu le mot saltozopuc. Je ne sais pas d'où c'est sorti, ça.
Un peu compliqué.
Ouais, je crois que c'est un animal amphibien, enfin une espèce de... Bref, on s'en fout. Et tout d'un coup, il est arrivé sur le tapis, Les Inconnus. Et notre producteur a dit, bah, voilà, donc si vous n'êtes pas connu, bah, vous le resterez.
Mmh.
Et si vous êtes connu, ça fera un truc un peu anti-héros, antinomique. Et les nuls ont fait pareil.
Eh oui.
Voilà.
Mais oui, c'est ça, c'est vraiment cette idée de l'anti-héros, et ça marche bien, en plus tu peux pas non plus le décliner, faut pas non plus, qu'est-ce que tu pourrais inventer maintenant, c'est-à-dire les sous-merdes, ça serait un peu délicat s'il y avait un nouveau groupe comique.
Les grosses merdes d'abord, et puis les sous-merdes après, je pense que... Mais il y en a, hein.
Ah oui.
Il y en a, mais bon, je laisse le public choisir. Mais en tout cas, la philosophie de cet exercice permet de constater au bout d'un certain nombre d'années que si l'œuvre est belle, peu importe le nom, les gens t'appelleront toujours par le nom de l'œuvre. Mais tu peux t'appeler n'importe quel nom, n'importe quoi. Si l'œuvre est belle, ils vont t'appeler Michael Jackson, David Bowie, tu vois, voilà, Claude François Junior, etc. Donc, si ça ne marche pas, ben, on ne s'en souviendra pas de toi.
Ouais, bien sûr.
Tu prends les Monty Python, c'est quoi ce nom d'où ça sort, tu vois? Monty Python. Ouais, ben, ils sont tellement bons que tu les appelles les Monty Python, puis point barre.
Ouais.
Même toi, ton nom...
Ben oui, les mecs que je veux ken, c'est vrai. Ouais, ouais.
C'est quoi ce nom, les mecs que je veux ken? Tu te dis, ah ouais, alors, au début, ken, c'est qui ken? Barbie, c'est... Ah
c'est
oui,
ça.
C'est du verlan. Mm. Et je trouve ça osé, en même temps, tu dis, les personnes que j'aime. C'est une métaphore, tu dis, les personnes que j'aime. Ouais, non, mais c'est bien. Puis c'est moderne.
Bah écoute, oui, alors bon, après en effet, ça peut aussi, figure-toi, assez choquer.
Dans un pays quand
même. Oui.
Rire aux États-Unis, là, l'avortement, on est con.
Ouais, c'est fou.
Non, mais ça, c'est... on régresse. De toute façon, quand il y a une disharmonie, il y a toujours une harmonie à un moment donné. Hitler, il est mort, hein, Hitler, hein, à un moment donné, il y a eu de la résistance. Bon, là, on est dans une merdasse un peu sociologique, mondiale. Je pense que d'ici 3-4 ans, ça va revenir à la normale, mais c'est compliqué.
Ouais, il y a une régression parfois des mentalités. Et justement, dans votre façon d'écrire des sketchs, toi d'écrire des sketchs, c'était quoi la partie sociale, politique? Vous observiez un truc de l'actualité, vous disiez qu'il faut réagir à ça. Est-ce que vos sketchs sur les profs, par exemple, sont cultes et n'ont pas vieilli, mais...
Parce que c'est une réalité déformée avec notre point de vue. Il y a toujours un aspect un peu clownesque, légèrement clownesque, qui est notre part de créativité.
Mmh.
Mais en fait, tout ce qu'on dit... Moi, si je te dis, Emmanu, tu descends, c'est pas très drôle quand tu le lis.
Mmh.
Après, il y a l'interprétation, la situation, les non-dits, le personnage, le contexte, le décor, Donc comme ce sont des mini-scènes de la vie, comme on est trois, c'est théâtralisé, même cinématographié parfois. Donc on représente la France, ou ce qu'on ressent. Donc au départ, c'est de l'observation pure. Mmh. C'est des choses qui nous choquent, qui nous taraudent, qui nous énervent. Tiens, j'ai lu un bouquin, tiens, j'ai vu une scène, tiens, j'ai vu un film. Et après, ben, comme on traduit ça avec notre énergie, ça donne des sketchs, une chanson, un film, un sketch télé, peu importe.
Est-ce que tu as senti la bascule entre le moment où les choses sont diffusées à la télé, donc de façon éphémère, et le moment où les sketchs sont sur YouTube et où les gens peuvent les voir, les revoir et les revoir et les partager ?
Alors déjà, avec le théâtre de Bouvard, j'ai appris il y a quelques années que nous avions le record of the world de l'Audimat.
Ah ouais ?
Ouais, théâtre de Bouvard, c'était 52% de parts de marché et 25 millions de gens tous les soirs.
Oh.
C'était juste avant le journal de télé. Hein.
Ah ouais.
Donc c'est chaud. Donc on était déjà des petites.
Ouais, pas ces inconnues en
voilà,
fait.
Des petites vedettouilles, tu vois, des petites voilà, des vedettasses. quand on est, moi on disait ah c'est le noir là, comment il s'appelle? Ah le noir. Ah après le black, parce qu'ils connaissaient pas nos noms. Après c'était ah les Jiminus, comment il s'appelle? Le basané là.
Quelle horreur.
Après c'était Légitimus.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est Pascal. Mm. Maintenant, quand je me balade dans la rue avec deux copains blacks, on dit « Ah, c'est Pascal avec deux blacks
!»
Tu vois, il y a un distinguo quand même. Donc, maintenant, on ne voit plus ma couleur, on voit un acteur. Mais avant, on ne voyait que ma couleur. On disait « Tiens, j'ai un rôle pour un immigré ou un vendeur de drogue ou un Uber Eats ou pour un chauffeur de taxi. » Je dis « Non, moi, je veux le rôle de l'avocat.
Bah, »
Ah bah non, c'est pas possible, monsieur Légiminus. Non, mais pourquoi? Bah, parce que vous êtes... Je suis quoi? Non, mais vous êtes... Non, je peux avoir le rôle du médecin, là? Non, c'est pas possible. Je dis, mais c'est quoi? Je suis né à Paris, j'ai pas d'accent, je fais quoi? C'est pour ça que j'ai dû passer par l'humour pour exister.
Intéressant.
J'ai dû être stratégique. Si j'avais... Ouais. Moi, je suis pas un acteur drôle au départ, vu d'où je viens. Bon, j'avais un point de vue, parce que j'ai l'œil. Mon père disait que j'avais la vista. Tout ce que je vois, je peux le reproduire. Il me dit, putain, waouh, mon fils, pourquoi je prends l'accent du midi, mon père. Je suis une personne de vieux. Mon père disait, tu as la vista, c'est incroyable, tout ce que tu vois, tu le reproduis. Ok, j'avais 9-10 ans. Hein. Donc du coup, je dis, ah ok. Et j'ai donc travaillé ça. Maintenant, j'ai travaillé plus tard ce qu'on appelle les non-dits, les sentiments subtils, tout ce qui ne se voit pas, mais qu'on sent. C'est vrai que c'est intéressant, voilà, donc là le parcours.
Et en plus, quand on tape ton nom sur Wikipédia, enfin, tu as une lignée extraordinaire.
Ordinaire.
Enfin, extraordinaire.
Oui, je sais pas.
On arrive vachement à remonter. Enfin, je veux dire, oui, t'as une généalogie assez impressionnante quand même.
Oui, c'est ça, la généalogie, oui, c'est ça. En tout cas, le sang, oui. Effectivement, j'ai des ancêtres qui ont fait des choses importantes pour l'humanité.
En Haïti, c'est ça notamment aussi.
Il y a Haïti, les Antilles.
Ouais, c'est
eu
ça.
Ma grand-mère, donc Darling Légitimus, a joué dans Rue Cazenègre. Pour ça, elle a eu un prix d'interprétation à Venise en 1983. Donc, c'est une des rares femmes, après Hattie McDaniel, qui a eu un Oscar dans Autant n'emporte le vent en 1900, je ne sais plus trop quoi.
Ouais, début du 20e.
Ensuite, il y a eu Ali Berry un peu plus tard.
Ouais.
Donc, voilà, donc il y a une petite fierté. Ensuite, son mari, il était à l'origine de tout ce qui est SOS racisme, la LICRA, tout ce qui est la défense des étrangers. Voilà. Mon oncle, le frère de mon père, Jezip. Lui, il a créé toutes les radios black, antillaises, voilà. C'est lui qui a permis d'avoir la première speakerine black à l'époque, parce que Valéry Giscard d'Estaing aimait beaucoup les femmes à forte pigmentation. Donc, il est rentré dans le créneau. Ensuite, mon grand arrière-grand-père, c'était un des premiers députés noirs à l'Assemblée nationale, qui est devenu donc maire de Pointe-à-Pitre.
Eh oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre. À Marie-Galante, il y a aussi une rue Légitimus. Il y a le Mans, machin, bref. Donc, du coup, ce sont des gens qui ont œuvré pour le socialisme, qui ont essayé toujours d'aider les autres, voilà, de rassembler, d'unifier. Puis, avec un nom comme Légitime.
Eh oui, c'est vrai.
Il faut trouver sa place.
Ouais.
Donc, il y a une espèce de... Et puis, vu d'où on vient, parce que moi, je dis que je suis poisson, ascendant gémeaux, mais descendant, fils d'esclave. Donc, il y a ça aussi, cette notion-là qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des Africains qu'on a déportés. Donc, c'est encore d'actualité. Alors, il y a des migrants de plus en plus aujourd'hui, on comprend plus la problématique. Donc, quand tu es aux Antilles, tu es sur une île, tu n'es pas chez toi. Donc, en plus, il y a ce qu'on appelle les béquets, donc les anciens...
Ouais, voilà, les blancs.
Les blancs qui ont tout le pouvoir de... Voilà, bon. On va pas leur en vouloir, hein. Ils font ce qu'ils peuvent, ils prennent, mais ils donnent pas grand chose. Donc du coup, il y a une rébellion interne, donc t'es pas à ta place, c'est compliqué.
Ah oui, ouais, si, on peut leur en vouloir quand même.
Oui, mais bon, j'ai pas envie de me faire des ennemis, j'ai pas envie de m'avoir un accident de scooter en sortant d'ici.
Ah quoi, t'inquiète, donc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de colonialistes parmi les auditeurs du podcast.
On sait jamais.
Et papa, il y a un petit con là, il y a un petit connard là, Légiminus là, qui a parlé de nous.
On sait jamais, on sait jamais. Je suis prudent, hein, c'est compliqué aujourd'hui dès que tu dis un truc un peu...
Ouais. Et tes cousins éloignés de Laurent Voulzy?
Laurent Voulzy, voilà, du côté de ma grand-mère, effectivement.
Ouais, du beau monde.
Ouais, des gens qui ont fait des choses en tout cas.
Ouais, alors, du ouais beau qui monde. Se sont battus.
Ouais, qui se sont battus pour faire avancer le, ce qu'on appelle le Schmilblick, pour ceux qui s'en souviennent.
Mais tu dis, on ne peut plus rien... Tu penses que... Enfin, ça, c'est dans l'air du temps, ce côté aujourd'hui. Oui. Et tu penses vraiment qu'aujourd'hui, si vous deviez refaire des sketchs avec les inconnus, vous vous empêcheriez certains
non.
trucs?
Non, non, je pense que c'est le paquet cadeau, la manière de dire les choses. Ouais. Si c'est pas drôle,
voilà,
ça devient...
C'est drôle. Bah, oui.
Si c'est drôle, c'est drôle.
Ouais. Ouais, ouais.
Peu importe.
Oui, surtout que c'était jamais méchant, quoi. Même, c'était très enfantin, quoi. Hôtel Neuilly-Passy, il n'y a rien de...
Ben, on dit la vérité, surtout.
Ouais, voilà. Ouais.
Bah, excuse-moi, je veux dire.
Ouais, ouais, bah oui.
Moi, j'ai vécu dans ce milieu-là. Donc, j'étais au lycée Claude Bernard, dans le 16e arrondissement.
Ouais.
Je les appelais les MST, les mocassins serre-tête. Je connais ces gens-là, j'en ai connu. Alors, il y a les bons bourgeois et les mauvais bourgeois. Mais on parle toujours de ce qui est mauvais. Les bons flics, les mauvais flics. Bah, des fois, quand j'allais dans la rue, à l'époque, ils disaient, ah ben, on en connaît des collègues comme ça, hein, qui sont un peu... Il y avait les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Alors, on en connaît des viandards qui font des... Donc, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Donc, nous, ce qu'on retranscrit dans ce qu'on produit, ce sont les mauvaises choses en général.
Ouais, ouais. Et donc, du lycée Claude Bernard à le théâtre Bouvard, comment ça s'est passé
Bah après le bac, j'ai redoublé, j'ai passé en candidat libre, parce qu'en fait, moi, j'ai eu un problème. Ma mère est décédée, j'avais 15 ans.
Okay.
Donc, du coup, ça m'a un peu fracassé. Et j'étais un élève moyen, correct, 12, 13, 14, des fois des pointes à 18, parce que j'avais la niaque. J'en ai pris un coup dans la carence affective, donc j'avais plus la pêche. Mais comme je travaillais quand même un petit peu à côté, en tant qu'acteur, dès l'âge de 10 ans, j'ai bossé, moi. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à faire des comédies musicales pour enfants. Voilà, l'Olympia. Enfin, voilà. Je suis un enfant de la balle, en fait.
Bah oui, d'accord. Donc, depuis voilà. Toujours.
Depuis tout petit.
Tout petit, tout petit. Ouais. Et ça, c'était ta maman ou ton papa qui s'est dit... Ou c'est ton désir à toi ou lequel...
C'est mon père qui, intelligemment, comme j'étais mutique, introverti, parce que j'avais une maladie des os, a dit, bah, ce gamin, il faut peut-être faire quelque chose. Donc, il y a eu l'intelligence de m'inscrire et de me faire faire du théâtre. Ça m'a exulté. Ça m'a fait du bien. Voilà.
Maladie des os.
Oui, qu'on appelle ça une... qu'on appelle ça une... Oui, enfin, c'est un
quand tu fais trop pipi.
Non, manque de calcium. Donc les os sont mous.
Ah oui, je voulais faire un jeu de mots nul. Les os.
C'est pas nul, mais j'ai pas compris. je fais genre, j'ai pas compris. C'est pas ridicule.
Ouais, si, si, non, je le couperai au montage. Je couperai ma blague de merde. J'essaie de faire des alphabétisés moi-même. J'en ai failli en faire un tout à l'autre, mais je t'ai pas coupé. Pardon. Donc t'as cette maladie des os, et ton père se dit, il faut le décoincer.
Voilà, sortir de son mutisme, donc légitime mutisme. Et il me fait engager dans une comédie musicale pour enfants qui s'intitulait La planète inconnue.
Déjà ?
Voilà. Produite par Marthe Mercadier, une actrice...
Une actrice qui s'appelle Marc.
Marthe.
Ah, pardon.
Marthe Mercadier, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Comédienne un peu de boulevard, entre autres, pas que, mais un peu comme... Elle est un peu un style Muriel Robin. Toi, tu regardes Marthe Mercadier, en tout cas, les gens de notre génération connaissent.
Ok, ok, ok.
Et elle produisait ce spectacle pour enfants au théâtre de l'Athénée.
Ah oui, oui.
Qui est juste derrière le théâtre Édouard VII, un petit théâtre de 300 places.
Vers
et moi, je jouais tous les jeudis et samedi après-midi pendant un an.
Eh oui, parce qu'il y avait des artistes dans ta famille, comme tu l'as dit, beaucoup, mais tes parents directement, eux, non. Ils n'étaient pas comédiens.
Mon père était comédien et musicien.
Ah, bah oui.
Et ma mère
oui.
était couturière.
Ah oui, donc voilà. Si, complètement, ouais.
Oui, mais en fait, mon frère est ingénieur.
Ah ouais.
J'ai une sœur qui fait de la biologie, des machins un peu complexes de là, dans le milieu médical. Et puis j'ai une autre sœur qui est dans le milieu associatif. Donc je suis un des rares... Chacun touche quand même un peu... Une qui fait du saxophone, mon frère fait de la guitare, voilà, bon, bref.
Ouais. Oui, donc tu faisais ça depuis toujours. Ouais. Et donc, en effet, ça t'apporte beaucoup de bonheur. Coup de déprime à l'adolescence, à la mort.
Tu as raison, quand j'étais sur scène, j'étais bien.
Ouais.
Parce que j'étais pas moi, bizarrement. Et donc, 15 ans, je suis l'aîné de 4 enfants. Ma mère décède d'un cancer de l'utérus. Donc, chaud. Donc je suis l'aîné de 4 enfants, donc faut soulever le truc. Mon père rencontre sa deuxième compagne, Marie-Thérèse. Et
Dis donc, vous l'avez pris beaucoup ce prénom hein,
oui, mais en même temps, elle est pas antillaise, donc, mais c'est un prénom qui m'a inspiré, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Voilà, parce qu'il fait du bruit le micro comme ça. Voilà. Et donc, je m'étais dit, bah, faut que je fasse quelque chose parce que mon père, faut le, comme il partait au turbin quand même, tu vois, gagner sa croûte.
Ouais.
Donc à la maison, fallait. Donc je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis parti très tôt de la maison.
Ok.
À 19 ans pour aider.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ouais. Ensuite, bah, chemin faisant. Alors, j'ai passé tous les concours du conservatoire, la rue, pas la rue Blanche, mais le cours Florent, classe libre, tout ça.
Ouais.
Et chaque fois, on me disait, ouais, c'est bien, mais bon, ça va être compliqué.
Ah ouais,
tout
toi...
en,
fa...
tout
ah
en me faisant ouais. comprendre que j'avais une, un aspect, c'était compliqué.
Oh là là. Même, d'accord, donc le conservatoire national, tu as passé les concours.
Deux fois. Et on m'a dit, ne revenez pas la troisième fois.
Oh.
Jacques Rosner, le patron de l'époque, ouais. Le taulier, m'avait dit, je peux vous voir deux secondes? Je dis, oui. Je connais bien votre famille, tout ça, la famille Légitimus, tout ça, blablabla. Mais revenez pas l'année prochaine, ça sert à rien, ça va être compliqué pour vous.
Oh.
Sous-entendu, la filière comédie française et tout le reste, ça va être compliqué.
Ah
sous-entendu,
là là.
Je n'ai pas le physique de l'emploi.
Ah, il n'y aura pas de rôle pour vous, quoi.
Non.
Oh.
Donc, moi, je me trouve devant un mur de béton.
C'est fou.
Je me dis, comment je vais faire, moi, qui veux jouer, qui a envie de...
Et tu avais présenté des scènes pas comiques.
Scapin.
Assis quand même, du Molière, ouais.
Et il y avait une scène qui était vraiment bien, ça s'appelle Le Bois Sacré, c'est une petite piécette. C'est le morceau que j'avais choisi, qui est très sympa. D'ailleurs, je conseille à tous les acteurs de retrouver cette petite pièce, Le Bois Sacré. C'est donc un chorégraphe russe, avec l'accent italien, homosexuel, qui, pour avoir des subventions pour monter son spectacle, raconte le spectacle en raccourci. Donc, il fait tous les personnages.
Mmh.
Il fait le vent, les petits oiseaux, il plaque ça, comme ça, puis là, et voilà, et puis il danse. C'est une scène très polyvalente, parce que je jouais beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça marchait souvent. Mais on me disait, ouais, c'est super, vous avez de l'énergie, une belle personnalité, mais... Putain, ok, ça va, j'ai compris. Mais il y a un monsieur, un pensionnaire de la comédie française, monsieur Jacques Serres, que je remercierai jamais assez, qui m'a dit en sortant donc du deuxième tour où je passais la deuxième fois, je sors, il me dit « Ah !» Il me chope, il me dit « Ah, vous, je ne m'inquiète pas, vous allez jouer.
Ah. »
Et ça, c'est resté dans mon disque dur.
Parce que ça aurait été un rêve pour toi de faire partie des pensionnaires, d'être à la Comédie Française?
Non, mais non. D'apprendre le métier.
Ouais, d'apprendre, oui.
J'étais peut-être pas un acteur génial, mais en tout cas, j'avais envie. Alors peut-être que j'étais pas bon, ça je l'avoue, mais... Qu'on ne me dise pas que c'est à cause de la couleur de ma peau. Qu'on me dise vous êtes mauvais, mais qu'on ne me dise pas, monsieur, vous avez une peau qui ne va pas...
Quel enfer.
On va pas vous, à part Othello, je ne vois pas où on va, tu vois, le cliché. Et c'est ça qui me faisait plus de mal.
Ah,
c'est
ouais.
Qu'on me mette de côté pour mon apparence.
Putain, c'est fou. On revient de loin, quoi.
Parce que moi, j'ai des copains très mauvais
ouais.
qui sont rentrés au conservatoire.
Ah ouais.
C'est le double choc pour moi.
Ouais, mais tu les as bien vengés après en toi devenant une méga superstar.
Oui, parce qu'il y en a deux ou trois, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus.
Bah ouais.
Ils font peut-être des animations au Monoprix du coin.
Tu penses que ça t'a donné la niaque quand même?
Quoi?
Bah justement, une telle injustice.
Bah je pense que l'échec est un diplôme.
Hmm.
C'est Idriss Aberkane qui dit ça. Et je suis entièrement d'accord parce que c'est comme ça que tu apprends. Je plains un peu les enfants qui sont dans des familles aisées, qui ont ce qu'on appelle cette cuillère en argent dans la bouche. Parce qu'en fait, on a remarqué à Auschwitz, pour parler d'une métaphore un peu sordide, mais qui est assez réaliste, les premiers qui tombaient, c'était les gens qui étaient bien portants.
Incroyable.
Ouais, qui étaient bien nourris, qui étaient... Parce que ceux qui n'avaient rien, qui étaient déjà maigrelets, bah, ils avaient déjà l'habitude.
C'est fou.
Par contre, un enfant qui est élevé, toi, dans du coton, dans de la soie, va le mettre dehors, vas-y, dans la toundra à moins 30.
Mais ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, ça fait sens. Samedi soir, j'ai été invitée à un spectacle de MMA, tu vois ou pas? C'est de la boxe où tous les coups sont permis.
Oui, je vois très bien.
T'aimes bien? C'est violent. Hein.
Oui, c'est violent.
C'est très violent. Ouais. Et donc, je ne me demande pas comment. Un gars m'écrit sur Instagram en me disant « J'aimerais t'inviter, Rosa, j'aime beaucoup ce que tu fais. » En fait, il est commentateur à des trucs de Ares Fighting.
C'est toutes les nanas qui veulent qu'elle, lui, c'est l'inverse.
Je crois pas.
Non, bah c'est tant mieux.
Je crois que c'est vraiment... ça avait l'air très respectueux, très professionnel.
Parfait,
très,
c'est bien. Il y en a.
Oui. Et donc... Donc il me met en contact, j'ai des invitations, il me dit « est-ce que tu veux venir ?» Je dis « bah ouais, j'ai jamais vu de spectacle comme ça ». Et donc voilà, samedi soir dernier, je suis allée avec un pote. Il n'était pas là, le gars, il m'a renvoyé un message, tu vois, « est-ce que ça t'a plu ?» Oui, ah bah super. Enfin, tu vois, rien, vraiment juste Mère Teresa du MMA. Vouloir faire découvrir le MMA des jeunes femmes ashkénazes qui n'ont jamais vu ça de leur life.
Très bien.
Et mon pote me disait que là, l'un des actuels champions du monde de MMA, c'est un Français d'origine africaine qui a vécu, qui était SDF à Stalingrad, en fait, pendant plusieurs années. Et puis qui, en fait...
Il a remonté la pente.
Il a remonté la pente. Et aujourd'hui, il est multi... Il gagne bien sa vie. Ouais, voilà. Il fait des shows de MMA à Las Vegas. Mais tu vois, c'est pour ce truc où...
Il ne va pas chez Lidl, quoi.
À mon avis, non.
Ouais, il va chez Vuitton acheter des sandwichs.
Et ouais. Mais ouais, comme
en
quoi,
cuir,
on est
en cuir, les... en cuir, sandwich en cuir. Oui, je vois très bien.
La rage, quoi.
Moi, j'ai encore la rage aujourd'hui.
Ouais.
Parce que quand je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le truc? Comment on va? Parce que, évidemment, ça va. Ça fait 45 ans que je travaille, j'y suis arrivé. On va dire, une belle maison, là, tout ça. J'ai pas de grosse voiture. Enfin, mais ça va, je ne crève pas de faim, le frigidaire est plein. Mais je suis tellement passionné, j'ai tellement de choses à dire que je me dis, comment, de quelle manière je vais encore... œuvrer pour transmettre et mettre en transe.
Ouais, c'est beau, mais vous vous arrêtez jamais. Après, justement, j'imagine que ça doit être aussi... Il y a le risque de partir de Bouvard pour créer les inconnus, mais il doit y avoir un deuxième risque après, c'est de vous dire à un moment, ok, on arrête et maintenant chacun fait sa carrière solo.
Ouais, c'est ça.
Ça a dû être aussi un sacré cap dans vos vies respectives.
Oui, mais on avait besoin aussi de se retrouver puis de se séparer. On est en jachère. Et après, on revient. Non, mais c'est plutôt...
Oui.
Mais c'est un métier difficile parce que ça, la donne a changé. Bah, je pense que tu es un peu au courant avec les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde a sa petite télévision grâce à Instagram. Donc, tout le monde a... Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités. Maintenant, il y a trop de monde même. Alors, c'est vrai qu'on est 7 milliards. Hein. Tu peux trouver ta cible. Là, je vois un acteur qui s'appelle The Rock. Il a 360 millions de followers.
Ouais,
donc lui, il pète, la terre entière est au courant.
Bien sûr.
donc du coup, tu te dis, le mec, il a un pouvoir, quoi.
Ah, c'est fou, ouais, c'est énorme.
C'est un leader.
Ouais.
Nous, sur Facebook, les inconnus, on a 1,8
million. Ouais, c'est incroyable.
Mais individuellement, parce que Bernard, ça n'intéresse pas, sur l'Instagram de Didier, il a 52, moi je suis à 57 presque, 56 000 followers. Donc tu te dis que le groupe est plus fort que l'individu.
Ouais.
Mais il faut... maintenir ce degré de réputation.
Ouais.
Donc du coup, moi je mets des petites conneries de temps en temps, mais qui correspondent à mon point de vue. Mais le but, c'est pas d'avoir les followers. C'est que quand tu fais un spectacle, qu'il soit vu et entendu. Donc
mais
il y a
ouais.
le savoir-faire et le faire savoir après.
Ouais.
Et je vois une fille comme Camille Lelouch, par exemple, elle a 2 millions de followers, elle annonce qu'elle est à l'Olympia 5 jours, c'est plein.
Ah bah c'est sûr.
Donc,
ouais.
Mais c'est un danger parce qu'il n'y a plus de place.
Et vous n'êtes jamais dit, tiens, pourquoi pas créer un compte Insta des inconnus où vous mettriez tous les sketchs dessus?
Non, parce qu'il y a des droits d'édition
qui
appartiennent en partie à notre producteur. Donc, il faut passer par des ayants droit dont nous faisons partie. Et on préfère vendre à une chaîne télé tous les 2 ans.
Ok.
Comme ça, là, c'était Canal+ pendant 2 ans. Là, ça va être TF1. Pendant 2 ans, nos 180 sketchs. On trouve ça plus intéressant que de faire un truc fermé avec une.
Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est étonnant que même toi, Pascal Légitimus des Inconnus, tu vois, c'est même pas que t'es une star, c'est que je pense que c'est autre chose, c'est que vous êtes culte, dans le sens où il y a un lien.
Affectif, c'est très affectif.
Affectif.
Voilà. Moi, je passe ma vie dans les cockpits hein, quand je prends l'avion.
Bah oui, parce que tu peux pas être dans l'annonce, sinon les gens te harcèlent, non?
Le commandant de bord, non, c'est que le commandant de bord veut toujours
me réclame
pour faire un décollage ou un atterrissage ou papoter.
Bah forcément, mais
donc comme ils ont le pilotage automatique, ces enfoirés.
Ils en branlent pas une.
Bah, ils se retournent, ils me font les. Je dis, mais les gars, les sketchs, je les connais, vous me les racontez. Non, mais attends, et puis les sketchs du machin, les sketchs du ceci.
Oui.
Moi, ça me fait. Non, mais c'est génial, c'est que de l'affection, je vais pas me plaindre.
Ah, bah, ouais, mais est-ce que, en même temps, cet amour qui est. Enfin, je veux dire, accompagner les gens autant. Est-ce que parfois c'est pas un peu quand même lourd ou envahissant
Je préfère ça
oui, plutôt bien que sûr, à l'indifférence.
Peut-être que d'être un clochard, tout
oui,
simplement.
Oui, non, voilà. Mais évidemment.
Non,
mais
là
tu
où
dis
où
dans
c'est
le livre
compliqué.
Quand les gens te demandent des autographes sans te dire bonjour. Que...
Oui, y a, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bien élevés et d'autres qui sont mal élevés. Donc il y a ça aussi. Des gens qui t'alpaguent sans te demander la permission, qui te prennent par le cou, qui te prennent par le bras, qui te font des selfies. Donc il y a un espace. Il y a un moment donné, il y a un espace qui le dépasse. En fait, c'est juste du respect, quoi.
Ouais.
Moi, je le ferais pas, Anna. Toi, si Robert De Niro, je dirais, ça va, frérot.
Ouais.
On fait une toffe.
Ouais.
Le mec, il me fout un coup de boule.
Ouais.
D'accord, moi, j'ai pas de garde du corps, tout ça, mais c'est vrai que moi, je suis en scooter souvent dans Paris, donc je me cache. Moi, quand je fais les courses magasin, bon, je suis pas dans l'ostentation, je suis dans la discrétion. Il y a des gens qui font un petit clin d'œil, un petit coup de pied, le petit pouce levé.
Mmh.
J'aime bien ce que vous faites.
Ouais.
J'adore. Continuez. Oh, puis quand vous avez fait ça, voilà. Mais le mec, ouais. Il me hurle dans les oreilles. Ou en boîte de nuit, j'y vais jamais. Mais à une époque, j'y allais pour quand il y avait des petites fiestas d'anniversaire. Hey, Pascal, tu connais la dernière histoire belge. Ah, quand vous avez fait ça, c'était génial. Pourquoi tu cries dans l'oreille? Ouvre-toi.
Ouais.
Après, il y a l'aspect féminin, les filles qui nous draguent parce qu'on représente que toi, on les fait marrer. Comme tu dis,
femme ça, c'est qui... pas facile. Hein.
Femme qui rit, femme ont été conquises.
Ouais, mais c'est pas évident à gérer parce que t'as envie de pouvoir plaire à quelqu'un pour qui tu es et pas juste d'être l'objet.
C'est ça, t'as tout compris. Donc, mais de toute façon, on n'est pas à plaindre hein, parce que je pense que les chanteurs sont plus des sexes symboles que.
Ouais.
Bon, des fois, avec le sexe, t'as pas de bol, même si t'es un sexe symbole. Mais on n'est pas à plaindre. Je plains d'été les Mike Brandt à l'époque, tous ces gens-là, les Claude François.
Complètement objectifiés, ouais.
Nous, les humoristes, bon, ça va.
Oh, quand même. Mais attends, tu sais que d'habitude, c'est plutôt les hommes, en effet, qui sont...
harcelés.
En tout cas, par des fans. C'est rare qu'il y ait des... Mais disons que tu peux avoir des femmes qui ont des tableaux de chasse, en fait, où elles veulent cocher, tu vois, les humoristes.
Ouais.
Et c'est une fierté d'avoir...
Ouais.
Mais moi, ça m'est arrivé, je pense, avec un mec, hein. Alors, à mon tout petit niveau, et en fait, je pense que, donc, quelque part, vu que je suis au début, c'est flatteur, tu vois.
Bien sûr, c'est flatteur.
Mais en fait, après, j'ai appris qu'il se tapait pas mal de jeunes comédiennes,
ouais.
Un peu, qui, tu vois.
Ouais.
Et je me suis dit, ah, en fait, c'était juste pour être dans sa liste, quoi.
Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il fait ça?
C'est trop bizarre.
Parce que quand il fait l'amour, il est pas là, le mec. Il dans ça, il dit, hey, je suis avec machine. Il y a pas de, toi, il est pas là.
Donc non, bah, je pense qu'il
y a pas de partage, quoi.
Ah non, pas du tout. Il coche sa case. Il coche sa case de ah ouais, enfin, c'est fait, quoi. Je pense comme une fan qui peut dire après toute sa vie et jusqu'à son lit de mort, j'ai couché avec Pascal Légitimus, quoi.
Ouais, mais en même temps, bon, il a un karma, ça va se retourner contre lui. Oui, ça va. À un moment donné, il va se passer un truc. En même temps, bon, s'il trouve des nanas qui, bon, voilà, chacun trouve son compte. Mais le problème, c'est le déséquilibre.
Ouais.
Moi, je dis quand tu rencontres quelqu'un, souvent, c'est quand, dans mes masterclass, c'est ce que je dis. Je fais des masterclass depuis 20 ans dans des entreprises ou dans des écoles de cinéma et de théâtre. Je dis souvent, parce que j'entre un peu dans la vie privée, parce que si l'acteur est vicié, il y a une désharmonie, il faut la réparer. Donc je dis, vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, il y a trois choses. Il y a la tête, le cœur et la sexualité. Si elle est trois, vous l'épousez la personne. Si elle est deux, c'est une belle histoire. S'il n'y en a qu'un, c'est une aventure. Eh bien, ça marche.
Toi, comment tu as réussi, Pascal, à réunir les trois, à justement... à trouver l'amour dans un chemin aussi étonnant que le tien.
Alors moi j'ai plusieurs grosses histoires très très longues, mais à chaque fois c'était pas des gens déjà du métier.
Ouais.
Il y en a eu, mais moi j'ai un truc, c'est que j'ai un thermomètre, j'ai un sixième sens, même un septième sens. Je suis limite un peu Jedi, c'est-à-dire que c'est un truc de famille ça. Limite médium, ce qui fait que je vois quelqu'un, je scanne très très vite.
Ok.
Donc je me plug parce que j'ai sur l'envie du moment, mais j'ai jamais été dans l'exploitation de l'autre ou le je prends, je jette. Tu sais, le mec qui prend, il jette comme les Kleenex.
Ouais.
J'ai toujours été au mieux dans le respect parce qu'à un moment donné, une femme, ça se respecte. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que les hommes sortent d'en bas, mais ils font tout pour y rentrer. Pourquoi 10 secondes de plaisir, tu vois. Et donc, il y a un paradoxe. Donc, il y a tout un phénomène qui se trame autour de la drague, du Tinder, pour ce qu'on appelle niquer.
Mais niquer, c'est quoi le but? Oui, d'accord. Ah, mais ça, c'est, ça fait du plaisir, c'est bon. Ouais, c'est, ouais, super. Mais il faut que la personne en face soit au même niveau.
Ouais.
Si tu veux niquer quelqu'un qui t'aime, ça marche pas, évidemment.
Bah oui.
Si tu veux niquer quelqu'un qui nique, c'est bon. Et ainsi, ouais, et vice versa. Donc il faut trouver, donc il faut apprendre à détecter ce qu'il y a en face. Parce qu'après, ça te. Parce que énergétiquement, il y a des trucs. Tu laisses des traces, tu sais, les odeurs. À un moment donné, tu es empreint de l'énergie de l'autre. Donc si tu tombes sur un vampire, bah, tu es empreint de ça. Donc je pense qu'il faut rencontrer des gens qui sont dans la même demande.
Et toi, même avec ton sixième sens, est-ce que tu as déjà souffert comme un fou en amour?
Bah, qui dit amour dit souffrance, de toute façon.
Ah ouais.
C'est, tu regardes dans le dictionnaire, amour, synonyme souffrance. Bah, quand tu. Le vrai amour pour moi, c'est d'aimer quelqu'un plus que toi-même. Il y a une phrase que j'ai éditée sur Instagram, parce qu'il y a un compte où c'est les belles phrases d'amour. Donc j'ai dit, tiens, j'ai envoyé ça. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est si on divorce, est-ce que je peux venir avec toi?
Ah, c'est très mignon.
Tu vois,
ça,
voilà,
c'est très mignon.
Ça veut tout dire. Donc, c'est. Non, mais moi, j'étais en carence affective très longtemps. Donc les femmes ont été importantes dans ma vie. J'ai toujours eu besoin de femmes à côté de moi. Je pense que je suis guéri maintenant. Moi, je prends des animaux maintenant. Non, mais c'est pour dire que le pire ennemi, la pire maladie du siècle, c'est la carence affective, ouais, de toute façon. Pourquoi tu veux être président de la République? Pourquoi tu veux être vedette? Pourquoi on est tous en carence affective à différents niveaux, mais je pense que... Parce que c'est la famille qui crée des monstres.
Mais toi, même avant de perdre ta mère, t'avais déjà quand même cette ambition, ce désir de devenir un jour une vedette?
Pas du tout.
Pas du tout.
Et même encore aujourd'hui.
Ah ouais.
Moi, mon but, c'est pas d'être une vedette. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin. C'est-à-dire que star, c'est pas un métier déjà. Non, ce qui est intéressant, c'est le... Moi, j'adore répéter une pièce de théâtre. Tu vois, j'adore travailler avant. C'est pour ça que je mets en scène. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Anthony Cavana, Stéphane Rousseau, des gens qui étaient différents, Laurent Ruquier. Parce que j'adore le travail, la construction, voir la naissance.
Ouais.
Voir un bébé naître, couper le cordon, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, et t'as reçu beaucoup d'amour. Mais comment tu te protèges, toi, Pascal, contre la méchanceté des gens? Est-ce que t'es susceptible?
Non.
Non.
Non, non, non.
Tu te vexes pas?
Moi, faut pas qu'on me touche, moi.
Ok. Tu te défends
bien. Tu peux me traiter de sale nègre ou de bamboula, ça me fait rien. Parce que j'ai eu ça étant jeune. Mm. Ça me fait rien du tout. Par contre, il ne faut pas qu'on me touche.
Mm.
Voilà, ça s'arrête là. Non, parce que la personne qui te juge, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ton apparence, qui te traite, c'est quoi le but? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Voilà, prenez vos cahiers. On corrige à la fin de l'interview.
Et tu avais appelé à voter contre Le Pen à chaque fois que... Non, bah, tu
non,
t'es, t'as pas...
Je, non, je ouais. me, non je, le monde n'a pas changé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà avant Jésus-Christ, c'était après, ouais, Vercingétorix, ça n'a pas changé. Il n'y a que la forme qui change. C'est pour ça que je ne lis plus les journaux, les interviews, je ne regarde plus les journaux télé. C'est les mêmes choses. Ça fait des années que je vois l'immobilier est en hausse. Je vois ça depuis des années. Bon, bah, des interviews après les élections. Oui, alors donc, ils font des analyses. Oui, mais ça sert à quoi d'analyser de quoi, ouais. Sachant que ce qui se passe au-dessus, ça nous échappe complètement. Je veux dire, on ne maîtrise rien. On est des petites gens par rapport à ceux qui ont le pouvoir.
Je vais passer au petit questionnaire de Proust.
Je t'en prie. Moi, c'est la banane Proust.
Je l'ai pas, la blague.
Non, là, il y a la Madeleine Proust.
Ah!
Moi, c'est la banane Proust.
C'est trop mignon.
Je m'approprie les...
Je pense que ça sera le sous-titre de cet épisode.
C'est ça, la banane Proust.
La banane Proust.
Tout nu et tout bronzé.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Il y en a plusieurs. Alors, la qualité que je préfère chez un homme... Le respect. Voilà, le respect. Ça veut dire beaucoup de choses.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Ben, d'être une femme.
C'est déjà bien.
Ah oui, c'est chaud.
Le principal trait de ton caractère?
Être humain.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Qui sont toujours là.
Ton principal défaut?
Trop gentil.
Ah ouais?
Ouais.
Parfois, on t'a un peu marché dessus à cause de ça?
Ouais, trop gentil, trop d'abus. Ouais, ouais. Mais bon, je préfère ça plutôt que d'être l'inverse. Trop gentil, ouais. Je laisse faire des fois. On m'écrase un petit peu. Je dis bon.
T'es pas trop procédurier ? T'es pas du style à dire j'appelle mon avocat ?
Non. Je laisse le destin faire son œuvre. Et des fois, ça marche.
Ton occupation préférée ?
Faire des interviews.
Ah, bah c'est, ça, c'est ma chance.
Non, parce qu'on peut s'exprimer dans des interviews comme ça. On peut. Tu ne vends rien. Tu vois, tu discutes, tu te livres un tout petit peu. Donc, tu fais marcher un peu ton cerveau et tu. Non, c'est bien de se remettre en question un peu, j'aime bien.
Ton idée du bonheur ?
Pour moi, le bonheur, c'est d'identifier ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi.
Les antibiotiques, on n'en a pas reparlé.
Entre autres, les antibiotiques.
La cortisone également ?
Oh, je déteste la cortisone.
Ah ouais, la cortisone, ça fait...
J'en
on
ai jamais
pas
pris,
dormir.
Mais ça,
ah bon
fait, ça fait grossir. Non, mais moi, j'étais à l'hôpital une fois dans ma vie.
Ah oui ?
Pour une appendicite.
Et la maladie des os, ça va mieux ?
Alors, j'ai fait 2 ans à l'hôpital. J'avais 2 ans, entre 2 et 4 ans. Oui, bah, j'étais champion de... J'ai failli être champion de Paris de course de vitesse. Non, non, je me suis vengé après, moi. Oui, j'ai fait des... Je courais très, très vite. Très sportif.
Je sors d'une vraiment très, très longue crève, à peine. Et c'est... j'en suis sortie grâce aux antibiotiques.
Ouais.
Qui m'ont donné la chiasse. Mais franchement, c'était peu cher payé. Pas...
Qui va la chiasse perd sa place. Fais attention.
Écoute, je suis contente d'avoir cette place-là. Quel serait ton plus grand malheur ?
De vivre vieux en souffrant.
Où aimerais-tu vivre ?
À Moréa.
Ah ouais ?
Ouais.
Bah pourquoi t'y vas pas ?
Bah j'y suis allé.
Vivre à Montréal ?
Bah, Moréa.
Ah, Moréa, c'est pas pareil.
Oui, y a un médecin ici, s'il vous plaît ? Non, parce que là, j'ai... Non, Moréa, c'est près de Tahiti.
Ah oui !
Oui,
ah, oui.
Polynésie française, madame. Moréa.
Je me disais Montréal, ok. Ouais,
ok, hey, je parle québécois, Moréa.
Ah oui, près de Tahiti, ah ouais, ça doit être dingue.
Ah non, voilà. C'est... Bah, tout...
T'as vu, je pleure ?
Oui, bah, c'est bien.
Voilà.
Oui, parce que j'y suis allé pour jouer. J'ai joué devant 800 personnes, ça, c'était super. Il n'y a pas très longtemps. Et j'y suis allé en 85 avec les Inconnus. J'avais un vague souvenir de bien-être, d'harmonie. Et j'ai retrouvé les mêmes sensations. Tout est simple.
Ah ouais.
C'est cool. Il n'y a pas de problème. Il fait beau. Il y a de la mer bleue. Bon, tu te fais un peu chier culturellement. Bon, c'est pas grave. C'est un peu long, le voyage. C'est 23 heures, dont 3 heures d'escale. Ça coûte un petit billet pour aller là-bas. C'est, ouais. Si t'es pas en business suit, c'est quand même 3000 balles en premium. Voilà. Mais...
Une fois que t'es à Montréa...
À Montréa, t'y restes un mois...
ça te requinque.
Ouais, je comprends mieux Jacques Brel et tous les autres. Pierre Cosseau, tous ces gens qui sont partis là-bas.
Ah ouais ? Mais attends... Ah, Polynésie française.
Polynésie française.
Mais c'est pas un paradis fiscal.
Non, mais non parce qu'en fait c'est sous tutelle française.
Ouais.
Mais il y a un gouvernement spécifique là-bas. Sauf que, alors il y a pas d'euro, c'est autre chose. Mais tu restes 6 mois et un jour, tu payes pas d'impôts, il y a pas de droit de succession.
Ah oui, pratique.
C'est pas mal.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
Tellement de choses. La trahison.
Tu penses qu'en étant trop gentil, on risque de se faire trahir ?
Non, mais il y a des gens qui sont assez malins pour te faire croire que,
ouais.
Qui t'embarquent dans une énergie, tout ça pour obtenir comme un vampire quelque chose, et puis qui te poignardent. Et ça, c'est un peu comme dans les films, tu sais, les Iago, Monseigneur, toucher ma bosse. C'est la trahison, ça, c'est un truc qui me... Je ne suis pas comme ça, moi. Quelqu'un qui est à côté de toi, qui... Je vais te simplifier le truc. Quelqu'un t'appelle au téléphone, salut, ça va, tu vas bien, ouais, Elsa, super. Dis-moi, madame, ouais, ça va, la famille, c'est super. Et à la fin, dis-moi, t'as pas le téléphone de Nagui ? Ouais, ok.
Ah.
Et écoute bien la dernière intonation. Ouais, je t'embrasse, ciao. Tu sais, bisous, salut, au revoir.
Ouais.
Le dernier mot. La personne a obtenu ce qu'elle voulait. Donc, on a mis de l'affect pour pécho. Elle récupère la chose et après, c'est fini, on ferme
les
écoutilles. Je déteste ça. Avis à la copulation. Donc, toutes les personnes qui m'appellent, ils vont. Ah, ouais, il y a la phrase.
T'as dit avis à la copulation.
Oui, je fais des jeux de mots.
Avis à toute personne qui est en train de copuler.
Qui nous écroute. Ouais, je déteste ça. Les gens qui te.
Arrête, tu me culpabilises, c'est ce que je viens de faire là en venant.
Eh oui, mais c'est un réflexe, je sais
bien. J'ai pas pu, ça faisait longtemps, mais j'ai appelé une copine qui a un compte, qui connaît quelqu'un, et je lui ai laissé un message horrible en lui disant, est-ce que tu crois, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je l'appelle lui pour
non,
ce
mais quand
truc.
C'est clair, ça va. Mais ouais. Puis la phrase, alors tout le monde fait ça, je sais. Ouais. Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je déteste ça.
Ah oui, non mais toi, ça doit être du matin au soir, en fait, j'espère les gens te demandent des services.
Mais on
oui.
Toi,
c'est même pas ça va, ils prennent même pas le temps de poser vraiment la question.
C'est un réflexe.
Ouais, ouais.
Je déteste les réflexes.
Ouais. Oui, ben ça c'est relou quand, j'imagine à mon petit niveau, les gens qui disent « je peux venir dans ton podcast ?» Alors t'imagines quand t'es Pascal Légitimus, les services, ça doit être du matin au soir, les gens te demandent des trucs, quoi.
Oui, puis même, oui, de toute façon, mais c'est le côté, faussement, j'espère que tu vas bien. En fait, ils s'en foutent que j'aille bien. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir quelque chose. Ouais. Et qu'ils me le disent tout de suite. Et Pascal, je suis en galère, dis-le-moi tout de suite.
Ouais.
J'ai pas de problème.
Okay.
Mais passer par de l'affect.
Ok, mais si on t'appelle et qu'on te dit, Pascal, je suis en galère, j'ai vraiment besoin du numéro de Nagui.
Ben je le donne tout de suite, ou je le donne pas, je demande à Nagui d'abord. Mais c'est pour te dire, c'est la démagogie.
Ouais.
Tu manipules, et ça, c'est dur.
Ouais, ouais.
Alors, les gens ont faim, je comprends, mais à un moment donné, stop.
Ouais. Un peu d'élégance.
Non, mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils croient que je le vois pas.
Oh bah oui. Ouais, ouais, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est vrai. Les courtisans, quoi. Un peu. Ouais. Comment aimerais-tu mourir ?
Bah, dans mon lit, comme Henri Salvador, tranquille, mais le plus tard possible. J'ai tellement de trucs à faire. Moi, si je fais 96, c'est bon.
Ah ouais ?
Ah ouais, un bon petit 96 en bonne santé. Pas grabataire, pas graveleux, pas dans un EHPAD, ça serait génial, entouré des miens, de la famille, des potes, voilà. Mais c'est chaud.
Est-ce que tu as une devise favorite ?
Oui. Ni pute, ni dupe.
D'accord. Est-ce que tu veux l'expliquer ?
Je crois qu'elle se suffit elle-même. Si on veut me connaître, ni pute, ni dupe. Voilà. Ça, voilà.
Merci Pascal.
Merci Madame Grimmstein. C'est quoi comme nom alors ? Ton nom il vient d'où ?
C'est polonais.
Ah, j'aime bien le polonais.
Enfin, c'est Ashkenaz quoi. Il y a eu je sais pas combien d'orthographes, il y a eu des J, des I, des Y.
Comment tu le prononces ?
Bernstein.
Bernstein.
Les gens le prononcent Burnstein. Je me demande, il n'y a pas de Burn.
Ouais, c'est Bernstein. Ouais.
Bernstein, voilà.
Donc merci Madame Bernstein.
Merci Monsieur Légitimus.
Et voilà, c'était Pascal Légitimus. Trop bien, un invité dont l'occupation préférée est de faire des interviews. Vous pourrez retrouver Pascal au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 7 octobre dans l'Invitation aux côtés de Patrick Chenet. Moi, je suis un peu fatiguée. C'était génial ce week-end à la Nouvelle Scène, mais très intense. Alors, je vais faire dodo. Je vous raconterai plus de choses dans une prochaine outro. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.